Le débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous. C'est une page qui s'est tournée hier soir. Et quelle page ? La fin de 9 mois d'un procès inédit, hors norme, on l'a souvent dit. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 a livré son verdict. Les 14 accusés présents ont été condamnés à différentes peines. La plus attendue à l'encontre de Salah Abdeslam, seul membre encore en vie du commando et qui écope de la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. C'est une sanction rarissime qui n'avait jusque-là en France concerné que 4 personnes. Alors nous sommes donc le jour d'après. Que restera-t-il de ce procès ? La mission a-t-elle été réussie ? Celle de juger la folie djihadiste commise dans un pays démocratique ? En quoi cette justice permet-elle d'apaiser les familles de victimes ? Ce sont nos questions ce soir. Soyez les bienvenus. Et pour répondre à ces questions, nos 3 invités à mes côtés en studio ce soir. Philippe Dupeyron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'association 13-11-15 et le père de Thomas décédé au Bataclan le 13 novembre 2015. Sharon Veil, bonsoir.
Bonsoir.
Maîtresse de conférence en droit international à l'Université américaine de Paris, chercheuse associée au CERI, le Centre de recherche internationale de Sciences Po. Et vous faites partie d'un groupe de recherche qui a suivi ce procès des attentats du 13 novembre 2015. Maître Pierre-Henri Bovis, bonsoir.
Bonsoir.
Notre 3e invité, vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. Merci à vous 3 d'avoir accepté l'invitation de RFI. Philippe Dupeyron, comment est-ce que vous avez réagi hier soir à l'annonce du verdict ?
Comment j'ai réagi ? Eh bien, le verdict d'un procès d'une telle ampleur et ce procès en particulier qui a duré 10 mois, c'est forcément une forme de soulagement. C'est la ponctuation en fait de cette longue traversée que nous avons tous vécue. Et donc c'est une forme, en plus cette journée a été un peu le jour le plus long, hein. Il s'était rallongé avec le verdict annoncé, décalé un petit peu dans le temps. Et par conséquent c'était une forme de soulagement, une délivrance en tout cas, et puis une satisfaction aussi qu'enfin le verdict ait été rendu.
Qu'est-ce qui vous a soulagé, la fin du procès ou le verdict en lui-même ?
L'un et l'autre, en fait. La fin du procès, oui, c'est la fin du procès à coup sûr. Encore une fois, c'est un procès qui a duré très longtemps, qui a été éprouvant, et qui a d'ailleurs livré beaucoup. On en parlera sans doute tout au long de ce débat. Mais où on a vu l'humanité s'exprimer aussi bien parmi les victimes qu'au cours du procès par les témoignages qu'ont apportés les accusés. Et on a vu évoluer leur personnalité, en fait. Et c'est vrai que c'est là où cette humanité s'est révélée. Et donc, c'est ce qui a marqué effectivement principalement le procès.
Sharon Veil, vous qui justement, en tant que maîtresse de conférence en droit international, avez suivi, je disais, ce procès, quels enseignements vous en tireriez de ce procès qui s'est donc achevé hier soir ?
Oui, alors justement, ce procès était un processus. Il s'agissait de 10 mois d'être dans la salle d'audience, 10 longs mois. Maintenant, ce qui était intéressant, c'est que c'était la première fois qu'on a eu une telle participation de parties civiles, c'est-à-dire on a eu 2600 parties civiles qui se sont constituées. Et dès le départ, on a laissé la place pour toutes les parties civiles qui seront intéressées de venir, de faire leur déposition, de donner leur témoignage, sans nécessairement les organiser par groupe, par représentation. Chacun était libre de faire comme il le souhaitait, soit rejoindre une association, soit être d'une manière individuelle avec son propre avocat.
Et ça a été un temps important pendant 6 semaines, effectivement, les parties civiles qui ont témoigné.
Voilà, alors il s'agit de 400 personnes, voilà,
un peu plus, 450 je pense.
Mmh. Voilà, parce qu'ils se sont aussi rajoutés plus tard.
Oui, absolument, il y a
eu
une semaine en mai, c'est rajouté encore. Il y a eu 5 semaines en octobre et une semaine en mai.
Voilà, alors on a débuté le procès avec 400 dépositions de parties civiles. Et encore une fois, sans limitation de temps, vraiment donner cet espace-là. Alors... au début du procès, évidemment, il y avait un peu des... Bon, on ne savait pas comment ça va se dérouler, parce que c'est vraiment la première fois d'avoir une telle participation. Et alors, on a vécu ces 5 semaines, qui étaient 5 semaines d'un côté très, très dures, avec beaucoup de gens qui ont donné des témoignages très très émouvant, très très dur. Et de l'autre côté, on pouvait aussi entendre durant ces semaines-là la demande de faire justice, de faire un procès équitable, d'essayer de comprendre comment ça pouvait se passer, d'essayer de comprendre les accusés. Est-ce qu'il y avait des failles dans la sécurité de l'État ? C'est-à-dire, les questions que les partis civils ont apportées à ce procès étaient assez variées et ils venaient aussi de leur propre vécu à eux, qu'il s'agit de jeunes personnes, la plupart d'entre elles, évidemment, je ne fais pas de généralisation, des jeunes personnes qui sortent à Paris vendredi soir, dans des bars, voir un concert. Alors, c'est aussi cette sociologie-là de ces victimes qui ont amené le ton de ce procès, en fait.
Et est-ce que c'était quelque chose d'inédit dans un procès en France, d'avoir comme ça 6 semaines, on l'a dit, de témoignages de partis civils?
Absolument, inédit en France et inédit en général, parce que même quand on voit des procès de crimes de masse au niveau international, par exemple à la CPI, il n'y a même pas de participation
de... Cour pénale internationale.
Pardon, la Cour pénale internationale, il n'y a même pas la participation des victimes, mais même quand on a eu des procès de ce genre-là, normalement, ce qu'on fait, on regroupe les victimes et ils ont un représentant qui parle à leur nom. Et ça, c'était vraiment très, très unique.
Allez-y, terminez.
Pardon. Et ce qui était en plus très intéressant avec une telle ampleur de participation, c'est les témoins qu'ils ont invités. Mmh. Et ça, c'était en fait la deuxième partie du procès. Alors, on a eu 5 semaines de partie civile qui donnent des témoignages. Et la deuxième partie du procès était un peu les témoins de contexte, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement des témoins qui peuvent donner de l'information spécifique sur les accusés, parce qu'ils ne les connaissent pas nécessairement, mais c'est de donner un témoignage sur le contexte. Alors, on avait, par exemple, le président Hollande, le ministère...
des affaires étrangères.
Et on avait des sociologues, des académiques qui sont venus, et tous ces gens-là étaient cités par les partis civils. Alors, encore une fois, inédit, alors vraiment inédit, qu'on a un président ou un procureur qui vient donner témoignage, et c'était à travers leurs demandes. Un processus organique.
Donc on est le lendemain du verdict, mais c'est la place des parties civiles que vous retenez de ces près de 10 mois de procès. Sharon Weil, maître Pierre-Henri Bovis, vous qui êtes avocat, c'est la même chose que ce que vous retenez?
Alors, je retiens effectivement le témoignage des parties civiles, mais surtout je retiens l'image qu'a renvoyée la justice, une très belle image, puisque à la différence de ce qui a pu se passer en Belgique, où Salah Abdeslam a gardé le silence et s'est muré dans le silence, à l'occasion de ce procès, de ces 10 mois de procès, les avocats de Salah Abdeslam ont fait un très gros travail, en amont évidemment, et puis au cours de l'audience, et ont fait en sorte que Salah Abdeslam aussi puisse s'exprimer. Et je pense que c'était très important dans le cadre de ce procès que Salah Abdeslam puisse alors expliquer sa version. Peut-être pas assez, peut-être il aurait pu aller en profondeur, bien plus en profondeur, peut-être évidemment que les propos qu'il a tenus n'étaient pas adéquats, mais en tout cas il a parlé. Il a parlé, il a eu l'occasion de s'exprimer, il a eu l'occasion de se défendre. Et je pense que dans le cadre de ce procès historique, il était très important que la défense puisse avoir tous les moyens mis à disposition pour se défendre et pour que justement on puisse avoir un procès équitable et surtout un procès contradictoire. Mmh. Parce qu'il aurait été tellement facile dès le début de prendre celui, le seul rescapé de ce commando, et bon, de faire passer, si vous voulez, une justice de l'émotion, de l'exécuter sur la place publique, sans vraiment de justice. Et là, ce que la France a renvoyé, puisque la France était quand même regardée à travers le monde, à travers ce procès, la France a vraiment renvoyé cette image du pays des droits de l'homme, les pays de la liberté, a pu organiser ce procès dans des conditions... dans de très bonnes conditions, avec un lourd processus aussi de sécurité. On n'en parle pas assez, mais les policiers aussi ont fait un énorme travail. Toute la cour d'appel était barricadée. Il y a eu un énorme dispositif mis en place pour que justement tout puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Et d'ailleurs, tout s'est très bien déroulé. Il y a eu quelques incidents comme ça majeurs, mais je veux dire, c'est dans la vie des procès. Et puis il y a eu 10 mois de procès, donc c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, il n'y a eu aucun incident majeur relevé. Tout le monde a pu s'exprimer. Les parties civiles aussi ont pu livrer des témoignages, alors évidemment édifiants, et ce serait ne pas leur faire honneur de le restituer ici, tellement ces récits étaient poignants, mais en tout cas, chacun a pu s'exprimer, et c'est vraiment à l'issue de tout ce débat riche et très poignant que cette peine a pu être prononcée, donc celle qu'on retient, puisqu'il y en a eu d'autres, hein, bien sûr,
on va en parler, évidemment,
mais celle qu'on retient, cette peine incompressible.
C'est de la question que je posais en préambule de cette émission et votre réponse m'intéresse en tant qu'avocat. Donc, la mission de juger la folie djihadiste dans un pays démocratique comme la France, cette mission a été réussie ?
Cette mission a été réussie puisque là, on jugeait clairement des actes inhumains, commis par des humains. Mmh. Et c'était là tout l'enjeu également. Comment cette folie que vous décrivez, cette folie djihadiste, comment cette folie a pu causer un tel désastre ? Et c'était, je pense, aussi tout le sens donné aux experts qui étaient là aussi pour essayer d'expliquer, et aussi évidemment à la défense pour essayer de donner son point de vue.
Mmh. Justement, la défense, comment vous l'avez perçue, Philippe Duperron, président de l'association 13-11-15, effectivement, ce que nous dit maître Pierre-Henri Bovis, qui a salué le travail des avocats de la défense, était très délicat de défendre des personnes comme Salah Abdeslam.
Ce que nous avions appelé de nos voeux, et c'est tout à fait ce qui s'est passé, c'était un procès juste et équitable et un procès dans la norme. Et là, il faut rappeler les propos du président Périès à l'ouverture de ce procès. Parce que ce préambule qu'il a posé donnait le cadre en fait, dans lequel il entendait inscrire tout ce long processus. Et ce qu'il a dit, effectivement, c'est que c'était un procès hors norme par l'ampleur, d'abord l'ampleur des attentats, par le nombre de victimes, par le nombre de partie civile constituée et par les accusés. Mais c'était donc un procès historique, mais ce procès hors norme devait rester dans la norme du droit. C'était un procès d'assises, c'était une cour d'assises. C'est une cour d'assises spécialement constituée, c'est-à-dire que ça n'est pas un jury populaire, ce sont des magistrats professionnels, en référence justement à la particularité des infractions commises. Mais ce procès devait rester dans la norme. Le jugement doit se situer dans la norme. C'est la justice de la République et c'est tout à fait ce qui honore ce jugement, ce qui honore la France, en fait, de ne pas... Ça n'est pas une justice d'exception.
Est-ce qu'on peut être dans la norme pour juger la mort de 130 personnes, les attentats, pires en France ?
Oui, absolument. Encore une fois, les faits sont exceptionnels, le nombre de victimes est exceptionnel, mais c'est l'application des règles du code de procédure pénale et les sanctions qui seront prononcées seront celles dont dispose le code de procédure pénale. Donc c'est cela qui devait être posé en préambule, de façon à ce que justement on ne puisse pas dire que c'était simplement une réponse à la rue, une réponse à l'émotion, une réponse en fait à la barbarie. Ça n'est pas que ça. Là, c'est la réponse, la juste réponse pénale. Et encore une fois, nous avons toujours aussi dit, nous, que nous avions entière confiance, nous faisions entière confiance à la cour pour que soit prononcée la juste peine. La juste peine, c'était celle que déciderait la cour. Et pas celle que... Voilà, c'est à la cour de décider, c'est elle qui a seule la décision en son intime conviction.
Alors, est-ce que Salah Abdeslam a été condamné à la juste peine ? Je vais vous poser la question dans un instant, mais maître Pierre-Henri Bovis, d'abord, décryptage de justement la peine à laquelle Salah Abdeslam a été condamné, réclusion criminelle à perpétuité incompressible. On rappelle que c'est le seul membre en vie du commando du 13 novembre 2015, ça veut dire quoi, réclusion criminelle à perpétuité incompressible.
Alors il faut savoir que c'est la sanction la plus lourde qui peut être prononcée par le code pénal, qui est prononcée de manière exceptionnelle. C'est la cinquième personne à être sanctionnée par cette réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Il faut savoir qu'en France, la France évidemment est soumise à la Convention européenne des droits de l'homme, vous ne pouvez pas être condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de sortir. En partant de ce principe, vous devez être dans la possibilité, une fois que vous avez exécuté votre peine de prison, à pouvoir demander à ce que votre dossier soit réexaminé par le juge d'application des peines. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que vous exécutez votre peine de prison, vous avez votre période de sûreté. Une fois que cette période de sûreté est passée, vous pouvez demander à ce que votre dossier soit réexaminé. Donc là, moi, j'en viens à ce terme incompressible. Incompressible, ce qui veut dire que votre peine de prison, elle est illimitée, elle est figée dans le temps. Maintenant, au bout de 30 ans, qui est la période maximale, vous pouvez demander à une cour spéciale, puisque là on est dans une infraction, dans une sanction exceptionnelle, vous pouvez demander à une cour spéciale constituée de réexaminer votre dossier pour espérer pouvoir recouvrer la liberté. Alors, concrètement, pour les téléspectateurs, est-ce que ça veut dire que Salah Abdeslam sortira de prison dans 30 ans ? La réponse est très probablement non. Mmh.
Ça veut dire qu'en tout cas, on ne pourra pas réexaminer son dossier
avant
30 ans.
Exactement, on ne pourra pas réexaminer son dossier avant 30 ans. Mmh. Maintenant, il y a énormément de garde-fous aussi qui sont mis en place dans le cadre de cette sanction de réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Nombre de garde-fous qui font qu'il est très peu probable qu'il puisse sortir. Je prends un seul exemple. Il faut que la Cour demande l'avis des parties civiles, des victimes, sur la potentielle réintégration de Salah Abdeslam au sein de la société. Déjà, rien que là, je pense que c'est un obstacle insurmontable pour Salah Abdeslam, à mon sens. Et puis Salah Abdeslam aussi sera âgé de 60 et quelques années. Il faudra aussi qu'il démontre sa capacité aussi à se réintégrer. Bon, c'est ce qui me semble particulièrement difficile. Celui qui a été sanctionné de la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, le dernier est mort en prison, c'est Michel Fourniret.
Par exemple. C'est une peine en tout cas dont la sévérité ce matin a été critiquée par les avocats. Je voudrais entendre justement sur ce point-là Philippe Duperron, justement en tant que président d'association de victimes. Qu'est-ce que vous inspire cette peine de Salah Abdeslam ? On sait qu'il a beaucoup évolué, il s'est présenté comme combattant de l'État islamique au début du procès, il a présenté ses excuses ensuite, il a expliqué qu'il avait renoncé à actionner sa ceinture d'explosif, ce que la Cour n'a pas retenu, affirmant que le gilet n'avait pas fonctionné. On ne peut pas se satisfaire d'une décision qui met sur un pied d'égalité le commanditaire des attentats du 13 novembre, en l'occurrence Oussama Attar, et Salah Abdeslam, qui n'est pas de toute évidence le commanditaire, a dit l'un des avocats. Vous ce verdict, cette peine d'Abdeslam, vous le réagissez comment?
Moi, je considère qu'en ma qualité de partie civile, ce n'est pas à moi de me prononcer sur la peine. Je considère que la peine, c'est la sanction prononcé par le juge pour sanctionner le trouble à l'ordre public. Et ça n'est pas la réponse à la douleur des victimes. Il n'y a pas de peine adaptée qui puisse finalement compenser ou dédommager la douleur des victimes. On ne peut pas la perte d'un enfant comme moi, d'un parent, d'un proche, et y compris aussi la douleur des rescapés telle qu'elle s'est exprimée avec force et intensité au cours de ce procès. Il n'y a pas de peine adaptée. Et donc, si on veut, si vous voulez, aller sur ce terrain-là, certaines des victimes vont demander plus encore que la peine maximale, parce que cette peine maximale n'est même pas suffisante. Donc je pense qu'en fait, les deux, tout ça se situe sur des plans différents. Les victimes, ce qu'elles attendent, et ce qui me paraît, moi, réparateur, avoir une vertu réparatrice, c'est le passage de la justice. C'est le fait que les accusés soient traduits devant la justice de la République, soient confrontés à la Cour, qu'ils soient aussi confrontés aux victimes, qu'ils puissent se regarder les yeux dans les yeux, et que cela a une vertu, et cela devrait suffire.
Mais quelle vertu, justement,
une vertu réparatrice, c'est-à-dire que oui, parce que ça, c'est une forme de symbole, de symbole que, la justice est passée, la justice de la République, c'est la justice des hommes qui passe et qui va répondre à cette justice divine qu'il voulait nous imposer.
Maître Pierre-Henri Bovis, rapidement.
Vous avez tout à fait raison, mais après aussi, il faut revenir au rôle de la prison. La prison, vous mettez au banc de la société une personne aussi qui a rompu le contrat social. Lorsqu'une personne, comme Salah Abdeslam, a participé ou a coparticipé à des attentats qui ont commis autant de victimes et qui a autant troublé effectivement l'ordre public, vous ne pouvez pas considérer qu'il va simplement faire une peine de prison allégée. Vous ne pouvez pas le mettre sur le même plan qu'un criminel lambda. C'est une atteinte, déjà, évidemment, aux parties civiles, et ce que vous dites est extrêmement digne, et c'est exactement cela, mais également aussi une atteinte à l'État. Une atteinte à ce qu'on représente, à ce que nous représentons, à ce que la France représente. Donc, si vous voulez, ça va même au-delà des victimes. On a tout un symbole qui a été attaqué.
C'est la question que j'aurais posée à Sharon Veil, qui est maîtresse de conférence en droit international. Est-ce qu'il y a aussi un symbole derrière la condamnation de Salah Abdeslam ? Est-ce qu'on ne pouvait pas ne pas le condamner à la peine de prison la plus importante possible dans le droit français ? Parce qu'il est, voilà ce que je disais, le visage du 13 novembre 2015 qui perdure aujourd'hui.
il y a le symbole. Après, on peut faire, on peut prendre des décisions dans différents sens. Cette décision-là a été prise. On peut la justifier, comme on aurait pu justifier une autre décision. Mais j'aimerais rebondir sur deux termes qu'on a discutés, la justice d'exception et la notion de processus de réparation. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui était dit, qu'on a vraiment vécu un processus de réparation, d'une certaine justice restaurative dans le procès.
On a eu ce terme de justice restaurative qui est revenu.
Et on l'a vraiment vécu, alors soit pour les parties civiles qui ont pu regarder les accusés, puis leur demander des questions d'une manière directe, mais même du côté des accusés, il me semble. Et on a eu beaucoup de fois des accusés qui ont dit suite à ce regard de cette mère, je voulais être là et vous expliquer pourquoi je l'ai fait. Et c'était des moments très très forts dans la salle d'audience. Alors quand on parle de réparation, c'est non seulement les victimes, mais c'est aussi les accusés et la société en général, finalement. Alors, c'est pour ça, après, les peines, oui, il y a les peines, mais il y a aussi un autre processus qui se met en place. Et par rapport à la justice d'exception qu'on avait discuté avant, alors, c'est assez intéressant que ce procès-là a commencé 20 ans après les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Et comme vous le savez peut-être, les accusés auteurs des attentats du 11 septembre, ils sont en procès à Guantanamo. Oui. Alors, c'est peut-être exactement le contraire de ce qui se passe là. Oui. Chez nous, c'était à Paris, au centre-ville, ouvert pour tout le monde. Toutes les parties civiles pouvaient venir, tout le public pouvait assister, écouter, essayer de comprendre. Tandis que la réponse américaine de justice d'exception, c'est de trouver un endroit éloigné, presque un endroit qui n'existe pas. C'est un endroit imaginaire. On n'a jamais vu les accusés.
Ça n'est pas la justice, en fait. Voilà.
Ça n'est pas la justice. Et ce processus-là dont on a parlé ne peut pas se reproduire là-bas, qu'on ne voit pas les accusés, les victimes. Voilà.
Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu beaucoup de thèses complotistes qui sont nées après le 11 septembre 2001. Oui. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu ce processus de justice?
Il y a une vraie transparence, justement, en termes de débat, en termes de, justement, on a laissé la défense s'exprimer, il y a des avocats qui se sont constitués, la preuve, en Belgique, il s'était mis dans le silence, là, il a pu s'exprimer. Il a pu parler. Et au contraire, ça a été l'exemple d'un immense débat démocratique.
Oui, et en fait, est-ce que ça peut créer un précédent? Je vous repose la question, Sharon Veil, pour juger justement d'autres tueries de masse.
Le procès des attentats de Nice en septembre.
Oui, alors il y a nos procès à nous, les procès terrorisme. Là, j'espère qu'on arrive au bout et qu'on n'aura pas besoin de reproduire des expériences de ce type-là. Oui, voilà. Alors, évidemment, en France, il y a eu Charlie Hebdo, le procès du V13 et Nice. Mais si on pense à des procès ailleurs, je pense que justement, ce processus de justice restaurative dans le procès pénal, on peut prendre beaucoup d'éléments, dès la participation de parties civiles, la narration des accusés, les experts qui sont venus. Peut-être il faudrait étayer un peu plus, avoir plus d'opinions. Mais c'est absolument un processus que je pense qu'on puisse reproduire.
Philippe Miperon.
Juste un tout petit mot simple aussi sur la place qui a été réservée au témoignage des parties civiles, justement, qui a été placée dès l'ouverture du procès. Et ça n'est pas sans signification, en fait, parce que justement, il fallait imprimer dès le début du procès cette douleur, cette souffrance, effectivement, qui a été libre, et ça, c'est la grande force aussi, et ce dont on doit remercier le président Périès, c'est que. Et donc, on voulait que cela imprime quelque chose, tant sur l'audience que sur les accusés eux-mêmes. Et effectivement, on a vu combien ils se sont livrés quand ils ont appelé effectivement cette maman qui leur avait dit qu'elle les aurait volontiers serrés dans ses bras. Et il a répondu « je lui dois bien ça à cette maman ». Donc, c'est vrai qu'il y a eu tout ce processus très très important et encore une fois dû à la place qui a été faite au moment même. Puisque il y a eu la séance de rattrapage du mois de mai où il y a eu une semaine parce qu'il y en avait tellement qu'on n'avait pas pu tous les inclure dans les cinq semaines d'octobre. Donc il y a eu une semaine. Mais vraiment, on avait placé ça au début du procès.
Vous diriez que qu'est-ce que ce procès vous a apporté par rapport aux attentes que vous aviez ?
Alors, nous, je redis et encore, et c'est, je le dis sincèrement parce que c'est personnellement ce que je pense. Je ne dis pas que je représente d'ailleurs l'unanimité des victimes, et loin s'en faut. Mais nous, moi, ce que j'attendais, c'est que la justice passe et que le procès ait lieu. Je n'avais pas d'attente particulière, ni sur la parole des accusés, parce que je refusais d'être suspendu à la parole des accusés, sachant que ça n'était pour nous qu'une source de frustration probable, puisqu'il était très, très, très peu à attendre et qu'il livre là ce qu'ils avaient refusé de livrer pendant les 5 années qui avaient précédé. Par conséquent, je n'avais pas d'attente particulière de ce point de vue-là, sauf le passage de la justice. Et on a vu que, eh bien, au contraire, alors du coup, des attentes, là où il n'y avait pas d'attente, il y a eu quand même des réponses. Pas toutes les réponses, bien sûr. Encore, et ce que je crois devoir dire, c'est que, en fait, les attentes, c'est quoi ? Il y a les attentes sur le comment et les attentes sur le pourquoi. Les attentes sur le pourquoi, c'est effectivement les experts qui nous ont parlé de la radicalisation, de comment ça pouvait s'établir. Mais, et là, on a dit d'ailleurs, certains, et la défense a dit, mais attention, on est là ni pour faire un procès politique, ni aussi, ça n'est pas une conférence sur la radicalisation, donc qu'est-ce que ça apporte ? Or, en réalité, ça a bien apporté, mais ça n'a pas apporté les réponses. Le pourquoi, on ne peut pas comprendre.
Alors, il y avait 20 accusés, il y en a 14 présents dans le box parce que 6 présumés, enfin 5 présumés au moins, en tout cas morts, ils ont été condamnés hier. C'est important pour vous, le fait que, justement, certes, des personnes présumées mortes aient été condamnées.
Je pense que là aussi, on est dans une forme de symbolique, dans la mesure où il n'est pas établi officiellement que ceux-là sont morts, eh bien, il importe que la justice passe pour ceux-là aussi, d'autant plus que ce sont les acteurs, les principaux acteurs.
J'ai une dernière question vous concernant, parce qu'il y a une rescapée qui a dit que maintenant, elle allait devoir faire le deuil du procès. Vous avez ce sentiment-là, vous aussi ?
Oui, je pense que c'est une expression qui peut être retenue, effectivement, oui, parce que bien sûr, on est tous, et c'est une interrogation, on est tous dans l'après-procès. Beaucoup ont consacré un temps infini, beaucoup étaient présents au quotidien, ou sur la web radio, très très fréquemment, et donc il y a un grand vide. Je voudrais simplement citer aussi deux mots sur ceux qu'on nous c'est-à-dire il y a ceux qui sont venus boire des coups et se faire des hugs à la sortie, ceux qui sont venus boire des coups au café d'en face, et puis il y a tous ceux qu'on n'a pas vus, parce qu'il y en a 500 qui ont témoigné, il y en a quelques-uns qui étaient dans les salles, et puis il y a 2500 parties civiles constituées, donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont en dehors des radars. Et donc, il faut aussi penser à cela.
Maître Yaroué Bovis.
Oui, sur ce point, c'est dans tous les procès, pour le coup, je vais au-delà même des procès évidemment terroristes. Dans toutes les formes de procès, la justice est une institution immense qui vous passe dessus comme un rouleau compresseur. Que vous soyez d'ailleurs partie civile ou pas. Hein. Alors évidemment, quand vous êtes prévenu, évidemment, c'est au quintuple, mais même lorsque vous êtes partie civile, la machine judiciaire est tellement énorme que vous êtes suspendu en quelque sorte à son fonctionnement, à son agenda, à son rythme, et vous devez attendre la fin d'un processus, la fin du processus judiciaire, la fin du procès, pour que vous puissiez tourner la page et essayer d'en écrire une nouvelle. Mais là, dans le cadre de ce procès, en plus surtout historique, pendant 10 mois, il faut aussi bien penser que les parties civiles, et je parle sous votre contrôle, les parties civiles, pendant 10 mois, étaient aussi suspendues à ce procès. Suspendues, alors déjà en amont avec la préparation, et pendant ces 10 mois-là, ah non, pas voir le bout, hein. J'en ai parlé un peu aussi avec certaines parties civiles, elles n'en voyaient pas le bout parce qu'elles étaient épuisées jour après jour, semaine après semaine. Déjà, psychologiquement, moralement, revivre ces événements-là était particulièrement difficile, mais vraiment espérer attendre la fin. Et hier, j'entendais quelques parties civiles témoignaient et elles disaient « Maintenant, ça y est, c'est fini, peu importe la peine qui a été prononcée, maintenant c'est fini, je vais pouvoir essayer de me reconstruire. »
Eh bien merci, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Maître Pierre-Henri Bovis, avocat pénaliste au barreau de Paris. Merci Philippe Duperron, président de l'association 13-11-15. Et merci Sharon Veil, maîtresse de conférence en droit international à l'Université américaine de Paris, chercheuse associée aux séries Sciences Po. Ce débat est à présent terminé. Je vous invite à retrouver Témoin d'Actu, c'est le podcast d'info de RFI, tout frais d'Alexandra Cagnard, qui a reçu Nathanaël Vitran, l'un des envoyés spéciaux de RFI sur ce procès des attentats du 13. 13 novembre 2015. C'est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat, Quentin Moulin à sa réalisation. Rendez-vous sur rfi.fr pour le retrouver.